Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On a parlé la dernière fois des différents symboles qu'il y a dans la Bible pour nous montrer l'Esprit Saint, nous dire quelque chose de l'Esprit Saint. Est-ce que dans le Nouveau Testament, c'est très explicite, le feu, les langues de feu à la Pentecôte sont liées à l'Esprit Saint, l'eau au baptême de Jésus, c'est lié à l'Esprit Saint, la colombe qui descend. Mais est-ce que quand on trouve ces symboles dans l'Ancien Testament, est-ce qu'à chaque fois, il signifie l'Esprit Saint, il nous montre l'Esprit Saint? Par exemple, quand on dit que Élie se lève comme un feu, est-ce que ça veut dire qu'Élie se lève comme l'Esprit Saint? Et est-ce que quand Moïse traverse la mer Rouge, est-ce qu'il traverse l'Esprit Saint? Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce sujet?
Alors, il est clair que l'Ancien Testament se dévoile dans le Nouveau Testament, comme dit saint Augustin, et que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. Et donc, les yeux chrétiens lisent des choses que, je dirais, le lecteur juif ne fera pas, c'est clair. Donc, il faut faire, bien sûr, la part des choses et bien comprendre que nous lisons avec un œil nouveau ces textes de l'Ancien Testament, ce qui n'exclut pas la lecture ancienne que nous respectons parce que les dons de Dieu sont sans repentance, Romains 11, 28. Et nous comprenons très bien qu'un juif ne voit pas les choses de la même manière que nous. Notons au passage que quand on dit par exemple l'Esprit de Dieu, eh bien pour le juif, l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même. Alors que nous, nous allons dire c'est Dieu, mais en outre c'est une personne intime de la vie de Dieu, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc nous avons un dévoilement supplémentaire sur l'intimité de Dieu, c'est ça le mystère trinitaire, c'est vraiment un déploiement, je dirais, de la révélation qui nous fait atteindre eh bien, la circulation d'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc les symboles de l'Ancien Testament sont voilés, et d'ailleurs saint Paul dira, c'est quand on à l'Esprit Saint que le voile tombe en lisant l'Ancien Testament. Mais il faut se convertir, il y a une conversion qui doit être obtenue. 2 Corinthiens 3, saint Paul dit explicitement qu'il faut une conversion pour que le voile qui est sur l'Écriture tombe des yeux et permette de comprendre ces symboles de l'Ancien Testament. En tout cas, il est sûr que le symbole de la nuée dans l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament est en continuité, parce que lorsque, au moment de la transfiguration, il y a la nuée, qu'il n'y avait pas d'ailleurs au moment du baptême, il y a la nuée dans le Nouveau Testament au moment de la transfiguration. Et la différence entre le baptême de Jésus et la transfiguration, c'est que dans le baptême de Jésus, on insiste sur la vérité de l'humanité de Jésus, puisque Jésus descend dans l'eau, il mouille, comme nous disions une autre fois, alors qu'au moment de la transfiguration, il y a tout l'éclat de la lumière, le visage de Jésus, jusqu'à ses vêtements, jusqu'à autour de lui, la lumière resplendit qui laisse entrevoir, comme disent les pères de l'Église, sa divinité. Donc l'accent est sur sa divinité, mais il y a la nuée qui recouvre l'ensemble du tableau, et les pères ont compris tout de suite que c'était la continuité avec cette nuée de l'Ancien Testament et donc la nuée du Saint-Esprit.
Et donc la nuée dans l'Ancien Testament, c'est et qui est très présente en particulier pour accompagner le peuple de Dieu qui sort d'Égypte. Donc on peut imaginer, penser que cette nuée, c'est déjà un signe de l'Esprit Saint qui guide le peuple de Dieu vers sa liberté.
Oui, tout à fait. Nous, en tout cas chrétiens, nous le lisons ainsi. Pour la tradition juive, c'est Dieu qui mène toutes choses. Et d'ailleurs, quand ils parlent de l'ange de Dieu, pour eux, c'est une métaphore pour dire que c'est Dieu qui agit. Donc, ils ne font pas la distinction que nous faisons en disant Dieu dans son essence et les trois personnes. Pour eux, c'est un peu un modalisme, comme on dirait, par rapport aux hérésies qui ont suivi la venue du Christ sur la terre. Il y a eu tout un courant qui voulait revenir à l'Ancien Testament, comme Paul de Samosate, qui disait dans le fond, Dieu est le même de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et puis il y a des modalités d'agir. De temps en temps, Dieu apparaît comme Père, de temps en temps comme Fils, de temps en temps comme Esprit Saint. On a ce vocable en Occident sous le terme de Sabellius. On parle de sabellianisme, c'est-à-dire une négation de la réalité des trois personnes divines pour dire c'est seulement Dieu. Et bien sûr, nous avons tout à fait droit et le devoir, puisque saint Paul lui-même fait ses passages de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Par exemple, en 1 Corinthiens 10, il y a cette relecture de l'Exode que nous venons de citer, et saint Paul voit dans le rocher qui accompagne le peuple, eh bien, Jésus lui-même, hein, qui l'accompagne. Et je vous lis le passage. « Nos pères ont tous été sous la nuée. » On parlait de nuée, ça tombe bien. 10:1. « Tous ont passé à travers la mer. Tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. Vous voyez, ça c'est une lecture typique de la façon dont les chrétiens lisent l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ils reconnaissent les signes et de l'Esprit et du Christ déjà dans les moments clés de l'Exode, donc au moment de la libération du peuple juif, c'est déjà l'Esprit et le Verbe qui conduisent toute chose vers la libération temporelle, le premier degré de liberté donc qui est accordé aux Juifs, c'est-à-dire d'être émancipé de l'esclavage d'Égypte avant d'arriver à des libertés, je dirais, plus intérieures, la liberté de choix, choisir entre deux biens le meilleur, et puis la liberté supérieure qui est d'être libéré définitivement du péché, qu'accorde bien sûr la grâce, la perfection dans la grâce jusqu'à la gloire.
Et on dit volontiers aujourd'hui que Jésus est le nouveau Moïse. On pourrait dire que l'Esprit Saint est la nouvelle nuée du Nouveau Testament en quelque sorte.
C'est très beau et c'est tout à fait valable. Je pense que un père de l'Église qui serait présent à côté de nous te donnerait le platchet en disant oui, c'est la nouvelle nuée. Et dans le fond, Jésus est le nouveau Moïse qui donne la loi nouvelle, et la nuée nous montre bien que cette nouvelle nuée nous montre bien l'action à la fois continue du Saint-Esprit, mais en même temps dans un renouvellement, puisque Jésus fait toute chose nouvelle, comme dit l'Apocalypse. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On ne peut pas rester attaché à l'Ancien Testament seulement sous le sigle de la continuité. Il y a un achèvement, un dépassement, il y a quelque chose même de l'ordre de la rupture, puisque il faut bien que le cordon ombilical soit coupé, et donc c'est une rupture d'étachement par rapport aux pratiques de l'Ancien Testament, en particulier tout ce qui concerne les sacrifices de l'Ancienne Alliance qui s'achève dans le sacrifice unique du Christ, et il n'y a plus de sacrifice nouveau autre que celui de Jésus une fois la Nouvelle Alliance accomplie. Donc il y a vraiment rupture d'étachement et puis dépassement, puisque ce qui est réalisé là, c'est vraiment le Fils de Dieu, alors qu'avant, c'était seulement des images. Et il y a, comme dit très bien le Concile Vatican II, à propos des textes de l'Ancien Testament, il y a de l'imparfait du caduc. Constitution dogmatique, Dei Verbum numéro 15, c'est un passage clé pour comprendre le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament.
Qu'est-ce qu'il dit alors ce passage? Pourquoi on parle du caduc et du parfait?
Alors, parce que ce qui est dans l'Ancien Testament a des éléments qui ne seront pas prolongés dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament fait rupture, en quelque sorte, les pratiques de la cacheroute, les pratiques des sacrifices, les pratiques de la circoncision charnelle. On aboutit à une circoncision du cœur, hein, et qui était déjà prophétisée dans l'Ancien Testament, hein, puisque, que ce soit dans le Deutéronome ou dans Jérémie, on parle déjà de cette circoncision du cœur, mais il semblait que c'était plutôt un futur, que c'était quelque chose qui était le lot des plus, je dirais, accomplis des hommes de l'Ancien Testament, tels les grands prophètes, etc. Mais désormais, avec le Nouveau Testament, en quelque sorte, tous deviennent prophètes à part entière, peuple de Dieu, peuple de roi, peuple de prophètes, d'une manière accomplie, alors qu'avant, c'était plutôt, certes déjà, un peuple sacerdotal et royal, mais d'une manière encore dans l'ordre de l'inaccompli, dans lequel il y a du parfait, de l'imparfait et du non définitif, alors que le Nouveau Testament nous porte à du parfait et du définitif.
On disait dans une précédente émission combien le Verbe et l'Esprit Saint étaient liés et qu'il ne fallait pas les séparer, qu'ils agissaient toujours ensemble. Et on voit dans les symboles qui nous sont proposés de l'Esprit Saint que les deux restent toujours très liés. Par exemple, Moïse et la nuée, Jésus à la transfiguration est dans la nuée. Voilà, tous ces symboles montrent combien les deux restent liés.
Oui, pour nous, c'est une grande satisfaction et de comprendre combien ce qu'enseigne le magistère de l'Église est cohérent avec les Écritures. Ce n'est pas des théories qui viendraient après coup, comme pour barrer la route à des théologies nouvelles. Non, c'est vraiment dans les textes qu'il y a cette continuité, cette unité de ce qui est, dans le fond, tout à fait normal, puisque à la base, c'est Dieu qui agit, mais qui agit en respectant, bien sûr, les processions trinitaires. Tout ce qui se fait ad extra de Dieu se fait selon que le Père engendre le Fils et selon ce que le Père et le Fils spirent le Saint-Esprit.
Merci, frère Edouard.
Merci.